Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki,
je le dis à tous mes compatriotes d'Allemagne, ne soutenez pas ces partis. Les chrétiens démocrates, les sociaux-démocrates, les verts sont des ennemis de la Turquie. Soutenez les partis qui ne font pas preuve d'hostilité à l'encontre de la Turquie.
Gerekli desteği verin.
Mi-août, le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé cet appel aux 1,2 million de Turcs qui vivent en Allemagne et qui possèdent la nationalité allemande. Eux aussi sont appelés aux urnes le 24 septembre prochain pour les élections législatives. Comment réagissent-ils face à ce que Berlin dénonce comme un acte d'ingérence exceptionnelle? C'est ce que nous verrons dans un instant. Et puis on fera un tour sur les îles Agalega dans l'océan Indien. Elles ont fait récemment l'objet d'un accord entre les gouvernements de l'île Maurice et de l'Inde, mais un accord qui inquiète les habitants. Merci d'écouter Vue d'Allemagne. Constance von Kötze au micro. Guten Tag, bonjour à tous. Une question sur le président Erdogan. La plupart des passants repoussent le micro de notre confrère Christophe Ricking. Nous sommes un lundi matin dans la Keupstrasse, une rue animée du quartier de Mülheim à Cologne. Des camions déchargent leurs livraisons pour alimenter les épiciers. Devant les salons de coiffure, clients et salariés fument une cigarette en buvant un café et en débattant des derniers événements du week-end. 40% des habitants du quartier sont d'origine étrangère. Parmi eux, deux tiers viennent de Turquie. Après quelques hésitations, un habitant du quartier, originaire donc de Turquie, Mustafa Bayhan, accepte finalement de commenter les recommandations électorales du président Erdogan.
Si nous ne pouvons ni voter pour la CDU, ni pour le SPD, ni pour les Verts, alors pour qui voter ? Pour le FDP ou même pour l'AFD ? C'est très maladroit de sa part.
Les interrogations de Mustafa Bayhan, de nombreux Turcs les partagent. Ces derniers mois, les relations entre le pays où ils vivent et le pays d'où ils viennent se sont détériorées pour différentes raisons. Eux se retrouvent pris entre deux feux et ne savent plus très bien à quel parti politique se vouer. Explication avec Umut Karakas qui travaille pour Data4You, un institut de sondage spécialisé dans l'étude des minorités ethniques.
Nous savons que les Turcs qui vivent en Allemagne sont plutôt conservateurs. Donc en toute logique, ils devraient plutôt voter pour des partis comme la CDU ou sa petite sœur bavaroise, la CSU. Mais comme une majorité d'entre eux est issue de la classe ouvrière, politiquement, ils sont en fait orientés à gauche et votent en général soit pour le SPD, soit pour les Verts.
Une analyse effectuée en novembre 2016 par la Fondation allemande pour l'intégration et la migration confirme cette tendance. 69,8% des personnes interrogées se déclarent sympathisants du SPD, 13,4% pour les Verts et seulement 6,1% pour les unions chrétiennes CDU-CSU. Ce désamour pour les partis conservateurs est lié d'une part au fait qu'ils soient d'obédience chrétienne, mais il s'explique également par le contenu de leur programme, notamment par le fait que depuis longtemps, CDU et CSU sont hostiles à une adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Par ailleurs, les hommes et femmes politiques d'origine turque sont mieux représentés dans les partis situés à gauche. Mais pas de chance, ce sont justement le SPD et les Verts, et les conservateurs, à qui il faut donner une leçon selon le président Erdogan. Mustafa Bayhan, l'habitant de la Keupstrasse, regrette ses propos.
Peut-être qu'il dit la vérité, mais il pourrait le dire plus diplomatiquement. Je ne suis pas du tout satisfait des relations actuelles entre l'Allemagne et la Turquie. Nous devons absolument surmonter cette période difficile et aller de l'avant. Les deux pays ont besoin de l'autre.
Quelques mètres plus loin, Sedat Yildirim, lui aussi germano-turc, se dépêche pour attraper le tramway, mais il accepte de s'arrêter quelques minutes pour nous donner son avis sur le président Erdogan.
Il n'a pas à se mêler des élections. En même temps, quand vous regardez les gens ici, ce sont des gens qui viennent d'un milieu modeste. On les a envoyés en Allemagne dans les années 60 pour qu'ils travaillent. Ce ne sont pas des gens éduqués, des universitaires. Et cela convient très bien à Erdogan.
En d'autres termes, Sedat Yildirim pense que les électeurs allemands d'origine turque se laissent facilement impressionner par les propos du président turc. un avis que confirment les recherches d'Umut Karakas de l'Institut de sondage Data4You. Umut Karakas pense que beaucoup de germano-turcs vont faire le choix de l'abstention aux prochaines élections. À plus long terme, des petits partis moins connus, mais qui souhaitent s'engager pour les Allemands d'origine étrangère, pourraient, eux, profiter de cette tendance. Hakan Bey, un autre habitant de la Kolbstrasse qui préfère ne pas décliner son identité, va en tout cas étudier la question.
En tant que Kurde, j'écoute ce que dit mon président. Je ne voterai ni le SPD, ni pour la CDU. Je vais me renseigner pour savoir quel parti considère la Turquie comme une partenaire au sein de l'OTAN et comme une amie. Et je voterai pour l'un de ces partis.
Si Hakan est en colère contre la politique du gouvernement allemand vis-à-vis de la Turquie, il ressort de ce petit tour dans la Kolbstrasse que beaucoup d'habitants espèrent surtout que les choses vont rentrer dans l'ordre pour qu'ils n'aient pas constamment besoin de donner leur avis sur les bisbilles politiques entre leurs deux pays. Et puis on remarque aussi que la campagne électorale pour les législatives n'est que peu présente dans cette rue commerçante, comme ailleurs dans le quartier multiculturel de Mülheim. Boulangerie, restaurant, agence de voyage, bijoutier, robe de mariée. Si les magasins turcs se succèdent les uns après les autres, on ne peut pas en dire autant des affiches électorales. Il y a bien quelques lampadaires recouverts des candidats du SPD ou de la gauche radicale. Pour ce qui est de la CDU ou des Verts, en revanche, circuler, il n'y a rien à voir. Vous écoutez Vue d'Allemagne et on prend le large pour se perdre dans l'océan Indien sur les îles Agalega, 70 km² situées à 1122 km au nord de l'île Maurice. Cette dernière et l'Inde ont signé récemment un accord portant sur le développement des infrastructures aériennes et maritimes d'Agalega. Certains prétendent que le grand frère indien veut s'installer chez son petit frère mauricien par intérêt stratégique pour contrer la démarche de la Chine dans cette partie du monde. Les autorités mauriciennes affirment, elles, que la présence des Indiens est liée à la sécurité maritime et en particulier au combat contre la pêche illégale, le trafic de drogue, la piraterie et le terrorisme. Alors, qu'en est-il exactement? Notre correspondant à Port-Louis, Nassim Akbarali, a mené l'enquête. Voici son reportage.
Environ 300 personnes vivent sur Agalega depuis des générations, coupées de l'île principale qu'est Maurice. Elles travaillent dans les plantations de coco appartenant à l'État mauricien. Elles produisent de l'huile de coco qui est vendue à Maurice. Agalega est une île paisible, très dépendante de sa voisine. Ce n'est pas Laurence Anzelin, agaléen de 36 ans, qui nous dira le contraire.
La vie n'est tout du monde comme nous camarades.
La vie à Agalega, où tout le monde se connaît, est tranquille, mais nous manquons d'ouverture sur le monde. Nous sommes entourés de la nature, des cocotiers, des filaos et de la mer. Il fait bon vivre à Agalega.
Coco, pigoco, filao.
Mais Laurence Anzelin dit craindre que sa vie paisible ne soit dérangée par la présence des Indiens sur son île natale.
Oui, une crainte.
L'Inde nous inquiète. Nous voulons le développement, mais il faut se mettre d'accord. Nous ne savons pas si les Indiens viendront habiter notre île. C'est difficile de venir vivre à Maurice. Mes parents l'ont vécu au Chagos. Ils ont été forcés de quitter leur île. Nous ne souhaitons pas que cela nous arrive. Nous aimons notre île.
Zino Alfred, président de Agalega Island Council, une organisation qui travaille pour le bien-être des Agaléens, ne voit pas ce développement d'un mauvais œil.
Si le développement arrive à Agalega, je ne regarderai pas son côté négatif. Le problème le plus aigu, c'est la santé des femmes enceintes qui doivent passer 6 mois à Maurice, le temps de suivre leur traitement avant d'accoucher. On a aussi besoin d'un collège à Agalega car le niveau d'éducation des Agaléens est inférieur à celui des Mauriciens. D'autre part, nous ne pouvons pas nous opposer à la nouvelle piste d'atterrissage. Mais nous aimerions avoir quand même voix au chapitre pour que le bien-être des Agaléens soit respecté.
L'accord entre Maurice et l'Inde porte sur le développement des infrastructures aériennes et maritimes à Agalega. Le premier ministre mauricien Pravind Jagnauth l'a détaillé au Parlement.
Cet accord porte sur l'amélioration des facilités de transport maritime et aérien à Agalega.
Les projets seront menés de gouvernement à gouvernement. Des fonds de 18 millions de dollars seront mis gracieusement à la disposition de Maurice par la partie indienne. Seront construits une nouvelle piste d'atterrissage, une jetée pour l'accostage et le mouvement de bateaux, un terminal pour passagers et des équipements de dessalement d'eau de mer et de production d'électricité et un système de tout à l'égout. Water and sewage systems. Let me state in unequivocal terms. Permettez-moi de souligner qu'il n'a jamais été et qu'il ne sera jamais question pour ce gouvernement de céder Agalega à un quelconque pays étranger. Agalega restera à jamais une partie intégrante de notre territoire. Will always be an
integral part of our territory. La question de la souveraineté territoriale préoccupe à juste titre les Mauriciens. L'affaire des îles Sagos est dans tous les esprits. En 1968, lorsque Maurice accède à l'indépendance, l'ancienne puissance coloniale britannique et les États-Unis concluent un accord au mépris de la population locale. Les Américains installent une base militaire sur l'une des îles de l'archipel et les habitants sont tout simplement déportés vers Maurice et les Seychelles. Mais le géopoliticien mauricien Shafiq Ousmane estime qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
Premièrement, l'Inde, avec les autorités mauriciennes, vont faire très attention avec la population d'Agalega, bien évidemment, qu'il y a eu l'histoire de Sagos justement il y a 50 ans de cela. Deuxièmement, l'Inde ne demande pas, n'exige pas l'île. L'île d'Agalega restera une île mauricienne. Il n'y aura pas de déplacement de population, non. Aujourd'hui, la tendance, c'est qu'on signe un accord. J'ai des facilités sur ton territoire, j'utilise ton territoire évidemment contre paiement, contre facilité dans d'autres domaines, etc. Il n'y a absolument aucune possibilité qu'Agalega passe sous souveraineté indienne.
L'intérêt que l'Inde porte à Agalega date de la fin des années 90, mais Maurice a pendant longtemps fait la sourde oreille. Pour faire pression, l'Inde s'est alors appuyée sur le traité de non-double imposition entre les deux pays qui, il faut le dire, a fait le bonheur de Maurice pendant une trentaine d'années. L'Inde a finalement obtenu ce qu'elle voulait depuis longtemps, soit une présence indienne sur Agalega qui lui permet d'avoir un œil sur tout l'océan Indien.
Quel avenir pour les îles Agalega? Un reportage de notre correspondant à Maurice, Nassim Akbar Ali, à retrouver dans la rubrique médiathèque de notre site internet, comme le reste de ce magazine. C'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine à tous, à la prochaine et tchuss.